Bienvenue et bonsoir à tous. La ministre Geneviève Darrieussecq à Gap ce vendredi pour inaugurer le début des travaux de rénovation de 3 bâtiments à la caserne du 4e régiment de chasseurs. Objectif, améliorer la qualité de vie de ses soldats les plus sollicités de France. Enseignants et parents d'élèves de La Ponsonne à Manosque reçus hier par le Conseil de l'éducation nationale du 04, mais la rencontre n'aura rien donné de concret. L'école affichée porte close hier, une grève avait été décidée pour dénoncer le manque de moyens. Les agriculteurs au Alpin à la conquête de Paris, la délégation 05 qui participera au salon de l'agriculture à la fin du mois a été présentée hier à Jarjaille. Jamais les participants n'auront été si nombreux. Et puis tous les rendez-vous sportifs du week-end, ce sera en fin de journal au menu ce soir du hand, du hockey, du foot et du rugby. Les militaires du 4e régiment de chasseurs de Gap ont donc reçu aujourd'hui la visite de Geneviève Darrieussecq, une visite qui était très attendue par les soldats, puisque la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées n'a pas fait que passer les troupes en revue. Elle a fait le déplacement pour inaugurer notamment le lancement des travaux de rénovation de 3 bâtiments qui hébergent une centaine de logements. Pour Geneviève Darrieussecq, cette opération à 18 millions d'euros est essentielle pour les militaires du 4e RCH, qui est l'un des régiments les plus sollicités de l'armée de terre.
Je crois que l'engagement d'un militaire est un engagement difficile, exigeant. On voit la façon ici dont ils s'entraînent dans des conditions difficiles. C'est un des régiments qui est les plus projetés et utilisés de France. Ils sont à l'étranger, ils sont sur les théâtres d'opérations extérieures étrangers, ils sont ici dans l'opération Sentinelle, ils s'entraînent régulièrement dans des conditions difficiles. Je crois qu'il leur faut aussi des lieux pour se régénérer dans de bonnes conditions et pouvoir aussi respirer, c'est essentiel. Je prendrai effectivement des nouvelles, des avancées du chantier et ce qui me tiendra à cœur, c'est que nous arrivions à le faire peut-être un peu plus rapidement parce que la durée jusqu'en 2023 me paraît un peu éloignée.
Alors, les 3 bâtiments seront rénovés chacun leur tour, ce qui va prendre du temps. La fin de l'opération est prévue pour 2023, mais Geneviève Darrieussecq a demandé à ce que les travaux puissent être terminés avant cette date prévue pour les ouvriers. Le calendrier s'annonce donc chargé et ce sera le cas aussi pour les militaires cette année. Sur les 800 soldats du 4e RCH, 600 seront déployés notamment en Côte d'Ivoire, au Mali et à Djibouti. En politique, le député Joël Giraud a décroché de son costume la médaille de commandeur de l'ordre de la Stella d'Italia, ou ordre de l'étoile en français. C'est la décoration la plus élevée en Italie. Elle est un peu l'équivalente de la Légion d'honneur en France. Le député au Alpin a fait savoir qu'il ne la porterait plus tant que le gouvernement de Matteo Salvini serait au pouvoir. Le ministre italien de l'Intérieur a multiplié ces derniers jours les attaques à l'encontre d'Emmanuel Macron, qui a donc décidé de rappeler l'ambassadeur français basé à Rome. Joël Giraud a également été choqué par la rencontre entre le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio et des Gilets jaunes. C'est une ingérence surréaliste dans les affaires intérieures françaises, c'est offusqué l'élu haut alpin. Dans le cadre de la colère jaune, vous le savez, le président Macron a lancé mi-janvier le grand débat national pour permettre aux Français de s'exprimer. Eh bien, la consultation fait un carton dans les Alpes-de-Haute-Provence. C'est le département de France où il y a eu le plus de réunions et il y en aura encore beaucoup de prévues. Avec plus de 18 réunions pour 100 000 habitants, le territoire arrive devant la Haute-Saône. Les Hautes-Alpes arrivent en 7e position. C'est la preuve que le grand débat mobilise plus dans les territoires ruraux que dans les métropoles. L'école La Ponsonne est donc restée fermée toute la journée. Hier à Manosque, les enseignants de ce groupe scolaire classé en réseau d'éducation prioritaire se sont mis en grève. Avec quelques parents d'élèves, ils ont fait le déplacement à Digne-les-Bains où se tenait le conseil départemental de l'éducation nationale chargé de statuer sur les attributions de postes pour la rentrée prochaine. La délégation manosquine souhaitait se faire entendre sur le manque de moyens humains et matériels qui affectent le quotidien des élèves. Selon Stéphane Boutor, le co-secrétaire du SNUIPP 04, l'école est en échec.
Ils peuvent faire leur boulot, mais ils le feront forcément de façon moins efficace, parce qu'il y aura des enfants pour qui ce sera beaucoup plus difficile de les faire rentrer dans les apprentissages. Quand vous êtes en éducation prioritaire, ça s'est pas fait au hasard. C'est qu'on a défini ces zones comme étant de l'éducation prioritaire pour leur donner des moyens supplémentaires pour qu'ils puissent apprendre comme les autres. Or là, quand vous vous retrouvez dans des classes à 26, 27, eh bien vous vous retrouvez dans les mêmes conditions que les zones qui ne sont pas d'éducation prioritaire. À force de travail, ils essaient, nos collègues enseignants, mais malheureusement, n'arrivent pas forcément à atteindre leurs objectifs. Et puis vous savez, comme dans n'importe quelle corporation, les travailleurs aiment bien quand ils font un travail bien fait. Or là, le constat est de voir que l'école est en échec.
Ah, c'était donc le co-secrétaire du SNUIPP 04, Stéphane Boutor. De son côté, Éric Condominas, délégué de parents d'élèves, assurait à l'issue de la réunion que le Conseil départemental de l'éducation nationale n'a fait aucune promesse à la délégation Manosquine. Toujours dans le domaine de l'instruction, plusieurs syndicats ont claqué la porte du Conseil de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence, notamment la FSU, Sud-Éduc ou encore la CGT sont très remontés contre la loi anticasseur et la loi Blanquer. Face à ces mesures, ces organisations estiment que les réponses préfectorales sont, je cite, inconsistantes. Dans les Alpes de Haute-Provence, toujours l'année dernière, les dossiers concernant le surendettement ont été moins nombreux sur le bureau de la Banque de France. C'est en tout cas ce qu'indiquent ses représentants. Il faut dire que les efforts se sont accrus pour trouver une solution pérenne aux personnes en situation précaire. Si dans les deux tiers des cas, le surendettement provient d'un crédit bancaire, une part non négligeable concerne les paiements de loyer, d'un impôt ou d'une caution. Le président départemental de la Banque de France, Philippe Kiel, s'est donc réjoui de cette baisse. Il a également détaillé le profil des personnes surendettées.
Au niveau des dépôts de dossiers donc dans les Alpes de Haute-Provence, il y a un recul pour la cinquième année consécutive. Nous avons eu 430 demandes en 2018 et un recul donc de 28% sur 5 ans. En parallèle, on a traité plus rapidement les dossiers de surendettement puisqu'on en a traité pas loin de 500. On a aidé 500 ménages à renégocier les dettes, notamment grâce aux nouvelles lois Sapin 2 et Justice du XXIe siècle. Au niveau du profil des surendettés, on est toujours sur des profils avec 70% de personnes seules, 70% de personnes sans activité professionnelle, 50% de personnes qui n'ont aucune capacité de remboursement et 80% qui ont un patrimoine vraiment petit, inférieur à 2000 euros. L'essentiel des motifs des surendettements sont toujours les mêmes, à savoir les accidents de la vie, comme la séparation, la maladie, le veuvage ou le chômage.
Philippe Kiel, le président départemental de la Banque de France des Alpes de Haute-Provence, avec Elena Saracani. La Banque de France, notez-le, veut aussi mettre l'accent sur la prévention avec des cours d'éducation financière. Vous retrouverez plus d'infos relatifs à ce dispositif sur alpe1.com. On parlait des emprunts, eh bien, ils ne sont pas toujours synonymes de précarité, c'est ce que démontre la ville de Digne-les-Bains. La commune veut emprunter près de 2,5 millions d'euros pour financer de nouveaux projets. Parmi eux, le réaménagement de la place des Récollets ou encore le parking de l'usine à gaz figure en bonne place, tout comme le déploiement de l'application de réalité augmentée au niveau de la crypte de Notre-Dame-du-Bourg. Tout cela va donc coûter de l'argent, mais Bruno Vallaron, le premier adjoint délégué aux finances, affirme que la municipalité fait des efforts pour stabiliser ses frais de fonctionnement.
Beaucoup de personnes connaissent la situation financière de la ville de Digne avec une annuité d'emprunt très élevée et donc qui s'est rajoutée aux baisses de dotation de l'État, hein, puisque maintenant nous avons perdu par rapport à l'année de référence 2013 1,5 million par année, donc il nous a fallu faire des efforts. Alors les efforts, ils se sont cantonnés sur les dépenses de fonctionnement à caractère général, c'est-à-dire les dépenses courantes, l'eau, l'électricité et des choses comme ça, où depuis 2014 à 2018 nous avons économisé 1 million. Nous avons travaillé avec sur la masse salariale et donc les dépenses de personnel, puisqu'il faut quand même constater qu'entre 2014 et 2018, hors effet de transfert de compétences à la communauté d'agglomération, l'effectif de la ville de Digne a baissé de 26 ETP. L'annuité de la dette va progressivement se réduire et donc donnera des capacités supplémentaires d'investissement pour le futur.
Voilà, des propos recueillis par Michel Bonnefoy. Notez que la ville a augmenté ses investissements de 32 millions d'euros depuis l'arrivée de Patricia Granet dans le fauteuil de maire. Elle veut rayonner à Paris et pour ça, elle prépare son voyage. La délégation eau alpine d'exploitants agricoles qui se rendra au 56e salon de l'agriculture à Paris s'est réunie ce jeudi matin à Jarjaille. C'est la sixième année que le département participe à cette gigantesque manifestation qui aura lieu du 23 février au 3 mars prochain. Ses représentants seront sur le stand de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et d'année en année, la délégation aux Alpines est de plus en plus nombreuse, comme l'explique Yvan Chex, le directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes.
Nous aurons cette année 50 producteurs qui se succéderont sur cet espace, qui le feront vivre. Et les retombées, elles sont économiques et médiatiques. Nous avons l'occasion de montrer un terroir riche, varié. Nous avons des contacts commerciaux nombreux. Et de toute évidence, notre participation au salon de l'agriculture a changé le regard des Hauts-Alpins sur l'agriculture des Hautes-Alpes et puis à changer en profondeur notre agriculture qui est aujourd'hui reconnue comme étant une agriculture assez exceptionnelle, de grande qualité dans toutes les filières et avec des produits d'une grande qualité. Donc c'est une belle édition 2019 qui s'ouvre, on y va avec beaucoup d'enthousiasme et je crois que ce matin on a touché du doigt ce bel état d'esprit Hauts-Alpins.
Et si ce déplacement au salon de l'agriculture séduit autant, c'est que les exploitants jouent gros.
D'abord, c'est pour lui une vitrine assez exceptionnelle. C'est un des plus grands salons en Europe, hein, c'est quelques 700 000 visiteurs. Et il y a des 1000 exposants, il y a 4000 bêtes qui sont dans cette grande ferme parisienne. Et pour lui, c'est l'occasion de présenter tout son savoir-faire et tout son terroir. C'est également d'avoir l'occasion de créer des contacts, souvent commerciaux, pour trouver des débouchés nouveaux. Et puis, ça participe d'une dynamique. Chaque agriculteur qui participe au salon d'agriculture prend sur son temps. Il quitte son exploitation, il monte à Paris. C'est pour lui un vrai, j'allais dire, sacrifice, en tout cas. C'est un vrai engagement sur l'exploitation agricole. Donc ils le font avec beaucoup d'ardeur et c'est tout à fait remarquable.
Voilà, donc Yvan Chex, le directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes pour Alpe 1.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Allez, on fait le point sur tous les rendez-vous sportifs du week-end et c'est avec vous, Elena Saracani.
On commence avec du handball. En pré-nationale féminine, c'est un déplacement qui attend les filles de l'entente Gap-Champsaur direction le parquet du Pays de Grasse, 5e au classement. Les Hauts-Alpines, quant à elles, sont 3e, mais jouent des coudes avec le haut du tableau, puisqu'elles ne sont qu'à 2 points du leader. Match à 14h ce dimanche. Et quant aux hommes gapensés, toujours en pré-national, c'est aussi un déplacement au SMUC de Marseille, match qui s'annonce compliqué pour les hommes de Thémistocle-Agostini. Eux, qui sont 8e, affrontent les secondes du classement. Du hockey sur glace à présent, si en Ligue Magnus, les Rapaces de Gap qualifiés pour les play-offs sont en trêve internationale, ça jouera en Division 1. Un match de rang qui attend les hommes de Claude Devez, 7e, puisqu'ils accueillent dans leur antre de René Froger, Nantes, 8e. On rappelle que les play-offs se joueront à partir du 9 mars et que seules les 8 premières équipes sont qualifiées directement pour les quarts de finale. Coup d'envoi ce samedi à 20h30. Du football à présent, en Régional 1 U18, le groupement féminin des Alpes se déplace à Marseille ce samedi à 15h. Dernier match de la phase aller pour les joueuses qui feront le tout pour le tout afin d'arracher la seconde place du classement. En District 1, tous les matchs se joueront ce dimanche à 14h30. Saint-Eutule Gap Foot 05, Aiglun-Riez, Valensole-Gréou Sisteron, Vivo 04 Céreste-Réan, Vinon-Durance Embrun et enfin Oraison Manosque. Du rugby pour terminer, en promotion honneur territoriale, le RC Dinois, premier au classement, se déplacera sur la pelouse du 8e, le rugby club Pierre Fequin.
Les rendez-vous sportifs du week-end avec Elena Saracani.